Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et bien sûr vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi, Jules Valentin Goué depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Valdo Simo Yamba Yamba nous rejoint depuis Kinshasa. Bonsoir Valdo.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Nous retrouverons Amdine Si à Columbus, ici donc aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et donc d'ici là, on va retrouver Élisée Mpatine. Nous tirons vers la fin de l'année 2019 et nous allons marquer un arrêt aujourd'hui pour passer en revue les grands événements sportifs qui ont marqué le continent et le monde. Mais bien avant, on va évoquer deux nouvelles d'actualité. La première, c'est le retrait de la Tunisie du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2019. Alors l'équipe locale qualifiée sur le terrain face à la Libye a déclaré forfait pour cette édition 2020 qui devait être organisée en janvier mais qui a été décalée en avril, du 4 au 25 avril plus précisément, pour permettre donc au Cameroun de terminer les travaux nécessaires. Alors Amine, c'est un changement de calendrier qui n'a pas du tout plu aux Tunisiens, vainqueurs de l'édition 2011.
Et pourtant, lorsqu'ils avaient disputé les éliminatoires, contrairement à la précédente édition, ils avaient mis toute l'artillerie lourde, c'est-à-dire leurs meilleurs éléments, ceux qui ont pour habitude de briller dans les compétitions africaines des clubs. Cela voulait dire tout simplement que la Tunisie, qui avait remporté l'édition 2011, se voyait capable d'aller au bout au Cameroun. Aujourd'hui, il y a des contingences du calendrier national et visiblement, la priorité pour les dirigeants tunisiens, c'est de terminer les championnats dans les meilleures conditions possibles de façon à pouvoir envisager les autres compétitions continentales, à savoir le démarrage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu lors du mois de mars et surtout ne pas oublier les éliminatoires de la CAN 2021 qui reste une des priorités de la sélection nationale de Tunisie. Ça en dit long également sur les relations entre la CAF et la Fédération tunisienne de football. Je rappelle qu'au mois de juin dernier, lors de la dernière CAN, lors du comité directeur ou de l'Assemblée générale de la CAF, la Tunisie avait décidé de boycotter cette dernière assemblée, étant donné les conditions de l'arbitrage, notamment de la demi-finale, entre l'équipe tunisienne et la sélection du Sénégal. Donc ça en dit long sur des relations qui sont très tendues actuellement entre l'exécutif de la CAF et la Fédération tunisienne de football. Et ce nouvel épisode ne fera rien pour améliorer une relation très très délicate. Aujourd'hui, visiblement, on préfère les intérêts du football tunisien à ceux du football africain. Et cette date dérange énormément de fédérations, à commencer par la Fédération tunisienne de football.
Alors, Jules, ce forfait pourrait quand même entraîner des sanctions de la part de la CAF, mais pour l'heure, il faut procéder au remplacement de la Tunisie.
Oui, bien sûr, mais je peux peut-être apporter une petite précision, c'est que le changement de calendrier n'est pas une surprise, il était attendu, c'est pour des conditions climatiques. Je vous donne juste quelques indications météorologiques. Il tombe à Douala 5000 mm d'eau par an et l'essentiel est concentré pendant ces grandes vacances. Et nous sommes au pied du mont Cameroun à Limbé. Et non loin de là, il y a Bafoussam. Et à Limbé, s'il vous plaît, c'est 10 000 mm d'eau par an. C'est la deuxième zone la plus pluvieuse du monde après Chirapungi, en Inde, au pied de l'Himalaya. Donc 10 000 mm d'eau par an. Et dites-vous bien qu'à Libreville, on a moins de 3 000. Et nous sommes à l'équateur. Donc vraiment, on se retrouve parfois avec des pluies à Douala qui font en juillet 15 jours sans interruption. Donc voilà pourquoi la CAF n'a pas hésité, dès qu'elle a été mise au courant, elle n'a pas hésité à prévenir d'ailleurs depuis et avant qu'il y aurait un changement de date. Et je pense qu'à ce niveau-là, je vois mal comment on peut organiser une course cycliste entre Washington et New York au mois de janvier. Donc c'est à peu près la même chose. Donc le vrai problème, c'est celui-là. Mais en ce qui concerne justement la Tunisie, comme vous venez de le dire, je crois que nous sommes à une période de désamour avec la CAF et que la Tunisie risque de fourler encore des tensions, si ce n'est les avoir franchement cette fois-ci.
Alors, Valdo, les sanctions, Jules en parle déjà. Il faut sans doute s'attendre à des sanctions. On sait qu'au niveau de la CAN, par exemple, lorsque le Maroc avait décliné l'organisation de l'une des CAN pour des raisons d'Ebola, le Maroc avait été sanctionné avant d'avoir raison hein, devant les instances. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à des sanctions de la part de la CAF à l'égard de la Tunisie cette fois-ci encore?
Des sanctions possibles, de s'attendre des sanctions, mais il faut également regarder les conditions telles que présentées, les conditions climatiques, les changements des calendriers, tout cela. Il fallait bien que pour les Tunisiens, la compétition se joue au mois de janvier, mais la CAF en a décidé autrement. Il faut être aussi raisonnable parce que les Tunisiens n'ont pas du tout tort. Hein. Si vous regardez les calendriers, la Tunisie n'a pas assez de joueurs venant à l'étranger. Et c'est pratiquement la même ossature le joueur vaudois dans son pays qui prennent part à cette compétition. Donc ça paraît très compliqué, très complexe de s'aligner comme ça. C'est une première. Il faudrait plutôt que la CAF puisse bien regarder cette situation et en tirer des leçons pour nous proposer des choses digestes. Si vous regardez Ahmad et son comité, cette saison ont tâtonné dans pas mal de compétitions et celle du Chan est également en train de subir ces désistements de la Tunisie. C'est plutôt des situations qui doivent nécessiter une étude et chercher à comprendre les vraies raisons au lieu d'aller si vite en sanction alors que ça ne devait pas être le cas parce que les Tunisiens ont aussi vu le calendrier, ils ont aussi leurs raisons à faire valoir. Et voilà pourquoi ils désistent. Donc la CAF, moi je pense que c'est une situation qui donne matière à réflexion quand il faut en venir aux sanctions ou pas.
Alors, Amine, la Tunisie qui a déclaré forfait, que faut-il faire? Remplacer?
Logiquement, le remplacement devrait se faire dans sa zone. La Libye ayant été éliminée par la Tunisie pourrait être repêchée. Mais le cas d'école serait, ou plutôt l'embarras qui pourrait être posé à la CAF serait que la Libye, qui ne s'est pas qualifiée sur le terrain, puisse décliner cette participation. Que ferait la CAF pour pouvoir avoir une compétition à ses équipes? Donc c'est véritablement un des dilemmes qui sera posé. Rappelez-vous, lors de l'édition 2018, le Kenya devait l'organiser, le Maroc a pu rattraper une situation qui était compromise en se proposant d'organiser la compétition, et du coup, on devait trouver une 16e équipe pour pouvoir disputer cette compétition complète. L'Égypte, qui avait été éliminée par le Maroc sur le terrain, a refusé de faire part de la compétition, et on a dû recourir à un système de barrage dans la zone où se trouvait le Kenya pour pouvoir terminer cette compétition à 16. Aujourd'hui, il va falloir que les instances de la CAF se penche rapidement sur le possible successeur de la Tunisie. Il ne pourrait sortir que de la zone nord, mais quid d'une décision des Libyens qui n'ont pas gagné leur place sur le terrain s'ils venaient également à refuser de disputer la compétition pour plusieurs raisons, étant donné déjà que leur championnat national n'a pas lieu dans les meilleures conditions possibles, et surtout s'ils devaient mettre tous leurs œufs dans le même panier, c'est-à-dire jouer à fond la qualification pour la CAN 2021 et surtout ne pas compromettre leurs chances pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.
Merci bien, Amine Birouk. Depuis Casablanca au Maroc, vous suivez Sporama sur VOA Afrique. L'émission revient tout de suite. Ils ne sont plus que trois en course pour le Ballon d'Or africain. La Confédération africaine de football a dévoilé l'identité des trois finalistes pour le prix du joueur africain de l'année. Et sans surprise, les deux superstars africaines de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah, se disputeront le prestigieux trophée en compagnie du champion d'Afrique algérien Riyad Mahrez. Alors Amdine, c'est vrai que ce trio n'est pas véritablement une surprise, hein, mais comment peut-on justifier la présence des uns et des autres sur cette liste de finalistes?
Bon, vous avez raison, c'est pas une surprise, le trio vraiment a marqué cette année, que ce soit Sadio Mané, que ce soit Mahrez ou Salah, ils ont vraiment réalisé chacun une très bonne saison. D'ailleurs, sur le trio, il n'y a que Sadio Mané qui n'a pas encore gagné ce titre, puisque Mahrez l'a déjà gagné en 2016 et Salah en 2018. Donc c'est à Sadio Mané de tout faire pour inscrire son nom pour la première fois de l'histoire. Mais il faut dire que l'année 2019 aura été pour Sadio Mané l'une des plus prolifiques d'une carrière en pleine. Elle est présente sur tous les tableaux d'honneur avec sa belle campagne 2018-2019. L'international sénégalais est bien placé hein, pour remporter cette année ce ballon d'or au CAF Awards, c'est selon, puisque, comme vous le savez, Liverpool qui a gagné la Coupe du Monde des clubs. Et Sadio Mané a été décisif en donnant une passe décisive à Firmino qui a marqué. Sadio Mané qui a été décisif lors de la finale de la Ligue des. Parce qu'il a été à l'origine quand même du penalty, il a provoqué le penalty. Pour la Super Coupe d'Europe également, il a réalisé doublé. Il a joué 4 finales cette année. Il n'a pas dû qu'une seule avec le Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour revenir à la Coupe du Monde des clubs, il faut dire que c'est un fait qui manquait à cette équipe de Liverpool, puisque Liverpool qui a gagné beaucoup de titres de champion. C'est si je ne me trompe pas, qui a gagné la Ligue des Champions à plusieurs reprises. Liverpool avait tout gagné, sauf la Coupe du Monde des clubs, et Liverpool l'avait ce week-end grâce un peu à Sadio Mané et Firmino. Donc je pense que Sadio Mané est très, très, très bien placé cette année pour gagner quand même extra.
On va essayer de reprendre Amdine. Alors, Valdo, Amdine le disait tout à l'heure, on a encore vu les deux superstars de Liverpool, Mané et Salah, champions du mondial des clubs, face à Flamengo du Brésil, donc 1-0 en finale samedi dernier à Doha, au Qatar. Une fois de plus, on va dire, Liverpool a été porté par ces Africains.
Logique, c'est une saison hyper... c'est une saison prolifique pour les deux, mais moi je vais plutôt à un petit détail. Quand il faut mettre en opposition Sadio Mané et Mo Salah, vous remarquerez que Mo Salah a été le meilleur joueur de la compétition, ce n'est pas Sadio Mané. Je me dis, à la différence des deux en club, c'est là où Mané ne pèse pas trop, s'il faut que je le dise comme ça, parce qu'ils ont tout gagné ensemble en club, mais en termes individuels, il n'y a pas une plus-value pour les Sénégalais. Il n'en a vraiment pas. Parce que là, c'est un autre qui est désigné maintenant un meilleur joueur de la compétition, alors que c'est lui qui est plus en vue pour remporter les ballons d'or africains. C'est un peu le déclic. Quand il faut encore revenir sur Mahrez, donc c'est un peu à l'arrivée, les trois méritent bien. Mais Sadio Mané, s'il va l'emporter, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, tout le monde à l'unanimité l'a dit. Tout le monde voit Sadio Mané, le joueur excellent, il fait une très bonne saison. Mais tout ce que Sadio a fait en club, Mo Salah l'a fait aussi, à la différence peut-être cette année au niveau de la sélection nationale où Sadio est arrivé en finale et que Mo Salah n'est pas arrivé en finale. Mais de l'autre côté, vous verrez, c'est Mahrez qui est arrivé en finale et l'a remporté sur le continent. Donc c'est un peu anecdotique, mais du moins, c'est le 3-là méritait bien d'arriver d'être le trio final pour le classement des ballons d'or africains, contrairement à ce qu'a été les ballons d'or France Football. Donc on attendra voir qui des trois va l'emporter, certes, ça sera un mérite.
Alors, Jules, l'autre indicatif, c'est que Sadio Mané est quand même arrivé quatrième au Ballon d'Or France Football. Juste derrière lui, on avait Mohamed Salah cinquième et Riyad Mahrez était à la 10e place. Et donc, c'est un indicatif aussi tout de même.
Oui, c'est un indicatif, mais il faut faire attention. Nous sommes en Afrique et il y a toujours des surprises. Moi, à mon avis, Mané et Salah normalement ont un avantage, c'est qu'ils sont dans la continuité et si on prenait entre les deux joueurs, bien sûr Salah a ce rôle là d'animateur d'attaque qui est très impressionnant, mais Mané semble plutôt être plus sur la courbe ascendante tandis que Salah se maintient. Donc si c'était moi qui choisissais, je choisirais Mané.
Merci, Jules Valentin Ngoué. Alors, Amine, Mané, Salah, finalement, le débat se recentre sur ces deux garçons de Liverpool. Quelle est votre analyse?
Mon avis, c'est que ce sera Mané qui gagnera au Caire. Ce sera un joli pied de nez, puisque l'année dernière, à Dakar, alors que tout le monde attendait Sadio Mané, c'est Mohamed Salah qui avait gagné. On doit se référer aux performances individuelles des deux joueurs. Ils ont fini tous deux meilleurs buteurs du championnat d'Angleterre. Ils ont gagné la Champions League, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence en faveur de Sadio Mané? Son rendement avec son équipe nationale qu'il a porté à bout de bras jusqu'à la finale de la dernière CAN, alors qu'il y a eu un gros fiasco, un gros bug de Mohamed Salah lors de la CAN qui était disputée en Égypte. Sadio Mané, cette année, beaucoup plus influent en première ligue anglaise, il est plus altruiste. On sent que Mohamed Salah est beaucoup plus concentré sur ses performances individuelles et donc sa plus-value, elle arrive au niveau des luttes, Sadio Mané est plus altruiste, il est plus passeur. Et on le voit sur l'action qui amène le but face à Flamengo. C'est lui qui se démarque, c'est lui qui fait la manœuvre pour pouvoir fixer le défenseur et offrir un ballon sur un plateau en or à Roberto Firmino. Donc aujourd'hui, avantage à Sadio Mané pour sa régularité, pour la qualité de ses prestations. Et ce serait une excellente nouvelle pour le football sénégalais qui se cherchait au niveau continental, au niveau du ballon d'or africain, un successeur à Hadji Diouf.
Merci Amine. Il faut rappeler que le grand vainqueur sera dévoilé le 7 janvier prochain lors de la cérémonie des CAF et OR qui sera organisée donc en Égypte. Il y a aussi d'autres prix pour d'autres catégories. Et donc on a Djamel Belmadi de l'Algérie, l'entraîneur donc de l'Algérie, qui fera face à Aliou Cissé du Sénégal et Moine Chabani, l'entraîneur de l'Espérance sportive de Tunis pour le prix de meilleur entraîneur de l'année. Et pour les autres prix, Anis Badri de la Tunisie, Youssef Belaïli de l'Algérie et Tarek Hamid de l'Égypte sont les trois finalistes retenu pour le trophée de joueur interclub de l'année 2019. Et chez les femmes, les trois finalistes sont Adjaran Chout du Cameroun, Aziza Oshoala du Nigeria et Tembi Gatlana de l'Afrique du Sud, tenante du titre, Alain Djoumfa du Cameroun, Désiré Ellis de l'Afrique du Sud et Thomas Denerbi du Nigeria sont en lice pour le titre de meilleur entraîneur de l'équipe féminine de l'année. Vous suivez Sporama sur VOA Afrique. On revient tout de suite. Faisons à présent cas des événements sportifs qui ont marqué l'année 2019 et puisqu'on parlait de football, on y reste. La CAN, la première à 24 équipes, a été une parenthèse pour l'Algérie. Habitués à envahir les rues d'Alger pour porter leurs revendications, les Algériens ont connu l'espace d'un été. Une parenthèse enchantée, inattendue, près de 30 ans après leur unique sacre africain sur leur terre. Eh bien, les Fenech ont réussi l'exploit de décrocher une deuxième étoile en Égypte. Alors, Jules, l'Algérie pas forcément attendue au départ, mais qui se trouve couronnée à l'arrivée.
Et bien sûr, mais qui se trouve couronné vraiment de la meilleure manière parce que les deux équipes ont dominé le football africain cette année, le Sénégal et l'Algérie au niveau surtout de la qualité de leurs effectifs, mais l'équipe la plus accomplie collectivement et tactiquement a été l'Algérie qui a enfin trouvé son équilibre. Et donc je pense que nous avons là un grand champion, un grand outsider aussi, et c'est très bien pour le football africain d'avoir deux locomotives de cette trempe.
Alors Amdine, ce fut une première CAN à 24 équipes, une première réussie avec pour seul bémol quand même les gradins vides. Amdine? Et donc Amdine qu'on a du mal à retrouver. Alors Valdo, je le disais, ce fut une première CAN à 24 équipes. On va dire aussi une première réussie avec, pour seul bémol, ces gradins qui, par moment, étaient vides.
Oui, les gradins, par moment. Moi, j'étais sur place et j'ai vu qu'il y a des gradins vides. C'est très compliqué, très complexe. Les gens n'ont pas vraiment couru, si ce n'est quelques matchs de la sélection nationale égyptienne, les pharaons qui répondaient un peu. Mais il y avait, c'était aussi à distance. Enfin, le déplacement était très compliqué. Regardez, par exemple, les Madagascar, il a fallu y passer les cartes lors de cette étape-là pour qu'ils en arrivent à jouer, bien sûr, à faire appel à près de 450 personnes pour qu'ils viennent soutenir la sélection. Donc c'était très compliqué, les stades c'était vide. Mais alors qu'il y avait un dispositif sécuritaire très très en place, là c'était vraiment pour accéder au stade, il fallait bien répondre à certains critères. Ils ont dû même relaxer l'accès au stade pour qu'il y ait assez de monde, mais malheureusement ça n'a pas été. Dans l'Égypte, pour organiser la compétition, on se pose alors la question de savoir qu'est-ce qu'il faudra, parce que c'est géant, c'est grand, c'est distant et les nations n'ont pas pu se placer avec leurs supporters. C'était peut-être ça. Mais question de voir également pour qu'à l'avenir, qu'on puisse bien voir dans quelle mesure du possible on peut bien sûr organiser qu'il y ait un plus grand influence. Quand on sait aussi que la situation sécuritaire y a été pour beaucoup pendant cette période, parce que la sécurité en Égypte c'était vraiment musclée. Et c'est peut-être ce qui a aussi rebuté certaines nations, n'est pas à faire déplacer trop du monde pour aller vivre la compétition.
Merci Valdo, Simbo Yamba Yamba. Alors, Amine, toujours dans cette veine de football, l'Espérance de Tunis est sortie championne d'Afrique en Ligue des Champions après une bataille sur le terrain face au Wydad Casablanca et à l'issue, on va le dire, d'une procédure juridico-administrative à de multiples rebondissements quand même.
une procédure qui n'est pas du tout terminée, puisqu'il y a une réclamation du Wydad de Casablanca auprès du tribunal arbitral du sport pour avoir le fin mot de l'histoire. Mais quoi qu'il arrive, cette édition et cette finale seront entachées par cette affaire de la VAR. Sur le terrain, les deux équipes ont pu se départager, puisqu'au moment de la finale, l'équipe tunisienne menait 1-0 et les Marocains venaient d'égaliser. Décision qui, ou verdict qui a été, au but qui a été refusé par l'arbitre du match, mais au vu du ralenti, et si la VAR avait fonctionné correctement, ou si une salle à VAR avait existé, on en serait encore à savoir qui serait champion d'Afrique. Quoi qu'il arrive, l'Espérance de Tunis a pu compléter sa moisson en conservant son titre sur le terrain et dans les coulisses et devant les commissions compétentes de la CAF. Lors de la Coupe du Monde des clubs, elle a échoué dès le premier tour face au Hilal Saoudi avant de se ressaisir pour le match lors de la cinquième place face à l'équipe du Qatar de 7 sur un beau succès, 6-2. C'est une équipe qui est en train de se renouveler, comme on a pu le constater au début de cette phase de groupe de la Champions League. Une phase de groupe qu'elle mène avec 2 victoires en autant de matchs devant 2 solides équipes, le Raja de Casablanca dans son antre et l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie à Rabès. Il va falloir voir maintenant si l'équipe tunisienne est capable de réaliser la passe de 3 et d'entrer encore plus dans la légende du football africain avec ou sans VAR.
Alors, Jules, on va le dire, hein, cet épisode sombre, on va dire, de la Ligue des Champions sur le continent a quand même marqué l'histoire du football africain. Cette double confrontation qui n'est pas allée à son terme pour défaut de VAR au match retour en Tunisie, c'était quand même assez pathétique pour l'Afrique, on va dire.
Oui, on a connu vraiment un passage à oublier très rapidement et qui entre dans le contexte général de la difficile prise de responsabilité dans la nouvelle équipe de la CAF qui a eu des flottements cette année. Donc j'espère que à partir de ces flottements, la barre sera redressée et que avec l'expérience, on aura des lendemains meilleurs.
Alors, cette gestion catastrophique de la situation par la CAF, à l'image de l'institution d'ailleurs, secouée, puis mise entre griffes sous tutelle, avec la nomination de Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, comme déléguée générale de la CAF. Alors, Amdine, se fit à la limite une honte pour certains que l'instance africaine de football soit mise sous tutelle quand même. La ligne est très difficile avec Amdine Si. Alors Amine, je vous relance. Je disais, on a vu cette gestion catastrophique de la double confrontation entre le Wydad et l'Espérance. Il y a eu pas mal de soucis au sein de l'organisation africaine du football et donc je parle de la CAF. D'aucuns ont parlé de honte que de voir la secrétaire générale de la FIFA être nommée déléguée générale de la CAF.
Et si on écoute Ahmed Ahmed, c'est à la demande de la CAF, donc il va falloir avoir le fin mot de l'histoire. Mais l'essentiel, c'est que la CAF a besoin de bons process, elle a besoin d'une transparence sur le plan administratif et financier. Peut-être qu'on a pris beaucoup de décisions sur le coup de l'émotion, sur le coup de vouloir régler les comptes avec l'ancienne équipe. Il va falloir maintenant beaucoup plus de sérénité. Dans 1 mois exactement, il y aura un premier bilan par rapport à ce passage de Fatma Samoura. J'espère qu'elle aura mis en place les bons outils pour que la CAF puisse être autonome dorénavant à partir du 1er février. Et la question qui se pose est si Fatma Samoura était appelée à rester 6 mois de plus pour pouvoir régler les affaires d'une CAF qui n'en finit plus de péricliter, sachant qu'aujourd'hui, il y a des déclarations d'intention de candidature pour 2021, avec notamment l'ex-secrétaire général égyptien Amar Fahmy, qui serait prêt à monter en première ligne pour contester la présence d'Ahmed Ahmed et sa gestion au sein de la CAF.
Alors, Jules, pour finir, quelles leçons est tirée de cette gestion, on va dire, un peu catastrophique du football continental cette année 2019?
Oui, mais ce qu'on peut tirer comme leçon, c'est que il faudrait peut-être que nous mettions un peu plus, disons que nous pesions un peu plus sur la balance. Nous avons beaucoup de pays qui en comptent quand il y a des élections au niveau de la CAF, donc il faudrait qu'on se fasse respecter et surtout qu'on évite les vides. Rien n'est plus dangereux que le vide en matière institutionnelle ou dans toute organisation. Je crois que c'est ça la grande leçon à retenir.
Merci Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. On était également avec Amine Birouk depuis Casablanca au Maroc. Élisée Mpati n'en était pas des nôtres ce soir. Valdo Simbo Yamba depuis Kinshasa. Amdinsi à Columbus, ici aux États-Unis. Sporama qui s'achève. C'est mon dernier numéro avant la fin de l'année 2019. Je pars en congé, je reviens le 20 janvier donc. Vous serez en compagnie d'Éric Manirakiza ou de Bagassi Koura pour les prochains numéros de Sporama. Je vous souhaite une excellente soirée. Suivez-vous Afrique.
Ah ben c'est bien, profitez-en, Yacouba Oudravgo, c'est très bien. Hein, vous allez souffler un peu quand même.
Merci beaucoup, Jacques.